France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Chaque année, à la même époque, a lieu la grand-messe du monde de la restauration, la cérémonie du guide Michelin, qui délivre son palmarès, les fameuses étoiles, devant un parterre d'un millier de professionnels, chefs, brigades, journalistes et désormais aussi influenceurs. La cérémonie 2025 a eu lieu ce lundi 31 mars à Metz, lors d'un événement auquel ont été conviés tous les chefs étoilés de France, ainsi que les nouveaux récompensés. Alors que penser du cru de cette année, dans un moment qu'on dit difficile pour la restauration et les restaurateurs, quelle importance revêt un tel événement ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité trois personnes. D'abord, une jeune chef de 32 ans, je crois, Sarah... Ah bah, 33 ?
Tout petit peu moins.
Ah, même un peu moins.
31 ans.
31. À Sarah Chounier-Strudel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez repris fin 2024 les rênes de les fourneaux d'une maison de 52 ans qui s'appelle au Trou Gascon et qui est à Paris, dans le 12e arrondissement, après avoir géré Roguin qui était à Marseille. Et puis nous avons invité deux journalistes culinaires, Stéphane Méjanès, bonjour.
Bonjour Caroline.
Journaliste et auteur. Je me trompe pas ?
Non.
Journaliste et auteur qui, en général, va à la grand-messe du guide Michelin, mais qui cette année a regardé ça derrière son écran. Vous nous direz si c'est différent, d'y être ou de ne pas y être. Et puis Franck Pinera-Barouste, à distance, bonjour à vous.
Bonjour à tout le monde.
Ancien rédacteur au Michelin, c'est important puisque nous allons en parler, et fondateur du site Bouillante, qui est un site d'information. En général, Franck Pinera-Barouste, avec Bouillante, vous savez tout avant tout le monde, et vous êtes pas mal craint dans le milieu, parce que vous dites pas mal de choses assez crûment, assez vertement, donc on vous craint. Voilà, donc votre parole, c'est on va entendre ce que vous dites, comment vous le dites. Alors justement, je vais vous donner la parole à vous pour commencer, Franck Pinera-Barouste, à propos du Michelin. Le Michelin, ça reste le premier des guides gastronomiques français. C'est, selon les chiffres, c'est quand même 125 ans d'existence. Il accumule plus de 70 millions de visiteurs uniques par an sur son site internet. C'est 50 destinations, c'est des chroniqueurs culinaires et 27 langues. C'est des chiffres et un symbole, je disais, parce que c'est aussi un rayonnement. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Vous avez dit le premier, j'ai presque envie de dire le seul. Les autres étant aujourd'hui vraiment pas grand-chose en termes de poids et d'influence. Le guide Michelin, lui, conserve une influence absolument très très forte. On le voit chaque année. Alors, on pourrait rentrer dans les détails en disant qu'il est un peu moins influent, qu'il est parfois moins recherché, qu'il y a parfois des chefs qui veulent rendre leurs étoiles, entre guillemets, rendre, parce que là aussi, on pourrait en débattre. En réalité, on ne rend pas une étoile qui ne nous appartient pas. Mais en tout cas, ça reste aujourd'hui le guide de référence, notamment pour les professionnels, puisque ça reste un peu leur colonne vertébrale pour savoir si où ils se trouvent, en bas de la colonne ou en haut de la colonne vertébrale, entre les 1, 2 et 3 étoiles. Donc ça reste le guide de référence. Et pour le grand public, y a des nouveaux enjeux, puisque je pense que tout le monde l'a vu ou presque, le partenariat avec Top Chef a cette volonté d'élargir le panel et le lectorat du guide Michelin. Donc il est lui aussi en pleine révolution identitaire, mais ça reste, pour répondre à votre question simplement et de façon concise, la référence absolue.
Stéphane Méjanès, vous êtes d'accord ?
Oui, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est même, j'ajouterais que c'est le plus rigoureux, même si on peut ne pas être d'accord, discuter de ses avis. Le guide Michelin fait le job avec ses inspecteurs, qui sont certainement pas assez nombreux. On ne sait pas exactement combien ils sont, c'est toujours assez mystérieux. Il y a des inspecteurs dans chaque pays qui sont couverts par le Michelin, des inspecteurs locaux. Et puis, il y a des croisements, les inspecteurs d'autres pays viennent, traversent les frontières pour aller vérifier, confirmer ou évaluer des restaurants qui sont peut-être tangents ou qui mériteraient des récompenses ou qui mériteraient des rétrogradations. Donc le guide Michelin met les moyens aujourd'hui, et puis il a aussi un modèle économique qui lui permet de monétiser son influence, la visibilité qu'il offre aux restaurateurs, mais aussi aux destinations. Donc avec tous ces moyens-là et les moyens que le Michelin, la maison mère, parce que le Michelin, ce sont des pneus. Le guide a été créé pour vendre des pneus. Et certains directeurs du Michelin disaient ça encore il y a peu de temps. Donc voilà, il a les moyens de ses ambitions. et il fait le job. On peut toujours le critiquer, mais il est là, et bien là.
Que représente pour vous le guide Michelin, Sarah Chouinier-Strudel ?
Je pense que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rêver, au début en tout cas de mon apprentissage en cuisine, puis après au début de quand j'ai commencé ma carrière de chef. C'est, je pense, quelque chose quand on ouvre son restaurant, moi en l'occurrence Regain, j'ai jamais pensé à avoir une étoile et ça a vraiment jamais été l'ambition. Où on prend un petit peu de distance, où on s'interroge, qu'on suit un peu de loin tout en s'y intéressant. Mais ça représente aussi l'aboutissement pour certains jeunes cuisiniers, comme des vieux cuisiniers d'ailleurs. L'aboutissement d'une carrière, la reconnaissance, c'est quelque chose. Je pense que c'est un cap qu'on a envie de passer ou non, mais avoir une étoile, c'est une reconnaissance un peu absolue en fait.
Vous disiez que quand vous avez ouvert Regain, donc à Marseille,
oui,
vous n'y pensiez pas, vous n'étiez pas dans cette course aux étoiles. Est-ce que maintenant, avec le Trou Gascon à Paris, vous y pensez un peu plus ou toujours pas ? C'est pas
non
une
plus.
Ambition.
Non plus. Ce qui d'ailleurs peut paraître étrange parce que le Trou Gascon a été étoilé.
C'est une institution c'est une qui institution... a été tenue par Alain Dutournier pendant très longtemps.
Exactement, 50 ans. Oui, ils ont eu une étoile. Derrière Alain Dutournier a eu deux étoiles au Carré des Feuillants. Enfin, c'était pour lui, c'était le démarrage de sa carrière parisienne. Mais là, c'est vraiment pas nos ambitions. On est très contents d'avoir une formule accessible le midi. Et je pense que, enfin voilà, on est contents d'être dans notre, on va dire, dans notre segment de bistrot et ça nous va très bien.
J'ai l'envie d'y rester. Est-ce que malgré tout, vous regardez la cérémonie du guide Michelin ? Est-ce que là, par exemple, vous l'avez regardé ?
J'avoue que non, pas du tout.
Pas grave.
Non, pas du tout. Non.
C'est pas grave parce qu'on a deux journalistes culinaires qui, eux, ne la manquent pas pour rien au monde. Sauf que là, Stéphane Mégenès, vous n'y étiez pas. Mais bon, c'est comme si vous y étiez ou pas ?
Oui, enfin je ne sais pas, j'avais quelque chose de beaucoup plus important le dimanche soir, donc comme ça commence en fait la veille, hein, il faut savoir maintenant aujourd'hui le Michelin c'est un barnum qui se déplace de ville en ville, enfin une ville nouvelle depuis quelques années, donc cette année c'était à Metz, donc le dimanche il y a tout un circuit avec les journalistes, les influenceurs, les chefs qui sont emmenés à droite à gauche pour rencontrer les partenaires locaux, les artisans locaux, les chefs locaux. Donc ça c'est pour ça
pour
que
mettre
Metz,
aussi en valeur
bien
un
sûr,
territoire, une région.
C'est comme le Tour de France, hein, c'est d'avoir une étape du Tour de France. C'est très important pour la visibilité d'un territoire. C'est aujourd'hui le choix que font certaines destinations, comme l'a fait Metz, comme l'avait fait Strasbourg, Tours ou Cognac avant elle. Et l'année prochaine, on ne sait pas encore, peut-être le sud.
Parce qu'ils maintiennent un certain nombre de surprises, hein, le guide Michelin, aussi bien
oui,
les lieux
le
où ils le remettent,
culte du secret,
les étoiles. Alors, qu'avez-vous pensé, malgré tout, de ce palmarès, du palmarès 2025 ?
Pour le coup, le palmarès, je le trouve... Enfin, c'est toujours difficile de commenter un palmarès du guide Michelin. Globalement, alors...
c'est un bon cru ?
Alors, c'est un bon cru parce qu'il y a, je trouve, il y a beaucoup de jeunes. La jeune génération est assez bien représentée avec c'est d'ailleurs le Gwenal Poulenec, le directeur du guide Michelin, a insisté sur le fait que la moitié des étoilés, des une étoile de cette année.
57 nouvelles de une étoile.
Absolument, mais qui ont été, la moitié sont des restaurants qui ont ouvert il y a un an ou même moins parfois. Ça témoigne d'un dynamisme et je trouve que c'est assez bien. Moi, il y a quelques restaurants que j'ai eu la chance de pouvoir, dans lesquels j'ai pu m'attabler, qui je pense méritent cette étoile. Donc je suis assez heureux pour eux.
Un exemple,
Aldéhyde, par exemple.
De Youssef Marzouk, qui était notre invité il y a quelques semaines. On est très contents pour lui.
Vous êtes très bons invités, Caroline. Non, Aldéhyde, c'était vraiment une révélation pour moi. Et je suis très heureux. Il est à Paris, c'est un élève d'Arnaud Donquel. C'est une belle équipe de copains qui ont ouvert ce petit restaurant près de la Seine. Et c'est vraiment formidable. Donc, je suis assez heureux. Je pense aussi à Amalia, de Eugenio Anfuso et Cecilia Spurio. J'ai aussi de Cécilia parce que ça c'est toujours le point faible de tous les palmarès du Michelin depuis des années, c'est l'absence quand même des femmes dans ce palmarès, même si Fanny Ray a obtenu la deuxième étoile cette année.
Enfin,
elle l'attendait depuis longtemps. Mais globalement, les femmes sont assez absentes. Ils ont le Michelin a essayé. Il y a eu des prix doubles, un homme, une femme pour la sommellerie, pour la directeur de salle, directrice de salle. Donc le Michelin fait des efforts pour que les femmes soient mieux représentées, mais pour les restaurants, c'est encore très, très peu.
Franck Pinera-Barousse, vous avez fait un article sur Bouillon, plusieurs bien sûr, avant la cérémonie, mais disons sur le palmarès, vous avez fait un article en 12 points. Alors on n'a pas le temps ici de revenir sur les 12 points, mais quels sont les points saillants pour vous de cette cérémonie ?
Je pense que je vais rejoindre Stéphane Méjanès. Je pense qu'on a cette année une très belle sélection et on a d'ailleurs lancé ce matin un sondage pour savoir un petit peu comment était perçue cette sélection. Et globalement, même si on est encore à la moitié du sondage, on a déjà plus de 1000 réponses et on est quand même sur une réponse très favorable autour de 75%, 80%, sachant qu'on a un électorat largement professionnel. Donc les professionnels ont un jugement très positif cette année de la sélection, ce qui n'a pas toujours été le cas, très loin de là. Et je crois qu'on a cette année une sélection qui mélange intelligemment des chefs très attendus, comme Hugo Rollinger au sommet, hein, le coquillage à Saint-Maloire-des-Ondes, à côté de Cancale, qui reçoit les 3 étoiles. On a effectivement Fanny Rey, vous venez de la citer, qui était très attendue. Et puis on a des chefs qu'on n'avait pas vu venir du tout, qui ont gagné une ou deux étoiles. Donc on a un vrai mélange de jeunes et de moins jeunes, très féminin, plus féminin que d'habitude. Et d'ailleurs, je crois que la cérémonie de mémoire a commencé par une étoile d'une femme. Et j'ai vu là un symbole très fort et très intéressant de la part du guide Michelin. Donc on a le sentiment que le guide Michelin a voulu vraiment coller au plus près de la réalité du terrain gastronomique. Et il a envoyé cette année incontestablement des messages très très positifs, avec, comme l'a dit aussi Stéphane, beaucoup de nouvelles tables récompensées, donc cette envie d'aller vite. On a longtemps reproché au guide Michelin d'être, d'ailleurs je l'avais traité plusieurs fois comme ça, sur les plateaux de télévision ou de radio, d'un peu de grand-mère qui avançait à son rythme. Là, on a le sentiment qu'ils veulent accélérer le rythme, et c'est tout à leur honneur. Ils le font parfois avec un peu de légèreté, on voit des étoiles qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Bon, on sait pas trop pourquoi, personne ne le sait à part quelques inspecteurs. Mais globalement, on est face à une sélection qui fait plaisir à tout le monde et tant mieux.
Est-ce que vous diriez que c'est équilibré en termes de régions ou est-ce qu'il y a des régions meilleures que d'autres ?
Ah, ça c'est la grande question, la répartition géographique des étoiles. Non, on a des régions totalement oubliées. La Bretagne, à part Hugo Rollinger, une étoile ne reçoit pas grand-chose. La Normandie, quasiment rien. Quant au Nord, on a une très belle table, Roseau, de Diego Delbecq, qui prend 2 étoiles un peu à la surprise générale, même si l'assiette, bien évidemment, la mérite. Mais on a quand même des régions, effectivement, qui chaque année souffrent un petit peu d'une absence de visibilité. Alors après, c'est la poule et l'œuf. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de table qui mérite d'être étoilée ? Et dans ces cas-là, Michelin ne fait que refléter la réalité d'un terrain, ou alors il néglige par manque d'inspecteurs. Tout à l'heure, on a cité une trentaine d'inspecteurs, je crois que c'est plutôt autour de 15. En tout cas, quand moi je travaillais au guide Michelin, on était à 15 inspecteurs. Donc c'est facile de faire des calculs. Hein. 15 000 tables recensées dans la base de données du guide, 15 inspecteurs, 365 jours, 2 repas par jour. On fait rapidement les calculs, comme quoi ils ne peuvent pas couvrir correctement tous les territoires. Est-ce qu'il y a une politique géographique ? On va plus couvrir le sud que le nord, on va plus couvrir l'est que l'ouest ou inversement. Bon, il y a probablement des politiques géographiques du guide Michelin, mais globalement, ça reste un reflet assez fidèle de l'arrêté du terrain gastronomique français.
Là, vous dites que la grande gagnante, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais ça fait partie, ce que vous venez de dire, Franck Pinera-Barousse, des questions qu'on pose, par exemple, sur l'entre-soi, le fait que le Michelin n'ait pas les moyens de défricher ou d'inspecter les quelques 170 000 restaurants français et que souvent, le Michelin vient confirmer surtout des talents du Sérail avec en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous Stéphane Méjanès, encore trop peu de femmes.
Oui, franchement, féminin, il est plus féminin que peut-être il l'a jamais été.
Mais pas encore très.
Ça reste encore, je crois que sur 80, si on cumule toutes les étoiles, y compris les étoiles vertes, les prix spéciaux, on a à peine une dizaine de femmes sur 80, un peu plus de 80 récompenses. Donc c'est encore pas assez. Après, est-ce qu'elles sont là ? Est-ce qu'elles sont inspectées de la même façon que les hommes ? Je voudrais juste préciser sur les géographies, je suis tout à fait d'accord avec Franck Pinera-Barousse. Si on trace avant le 31 mars, si on traçait une ligne entre Lille et Toulouse à peu près, on n'avait que 2-3 étoiles à l'ouest, Michel Guérard et Alexandre Couillon. Là, on a doublé d'un coup avec Hugo Rollinger et Christopher Coutenceau qui récupèrent une étoile qui lui avait été donnée en 2020, retirée en 2023 et qui revient en 2025. Donc il y a un petit rééquilibrage
à La Rochelle.
À La Rochelle, un petit rééquilibrage ouest-est du Michelin.
Alors, puisqu'on a autour de la table une jeune femme chef, Sarah Chounier-Strudel, je crois qu'en plus, vous êtes une génération de chefs post-MeToo, on peut dire comme ça. Je pense que j'ai lu en tout cas que pour vous, les conditions de travail dans le milieu, quelles qu'elles soient, pas seulement liées aux femmes, mais aussi sont très importantes, que vous êtes très soucieuse de ça et que vous faites remarquer que vous étiez souvent, vous étiez seule femme parmi les 25 garçons pendant votre apprentissage. Est-ce que malgré tout, vous pensez qu'on progresse? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit là, de ces résultats du Michelin qui restent finalement trop peu féminins?
Alors, je trouve qu'on progresse. Je pense aussi que c'est quelque chose qui prend du temps, donc c'est aussi normal en fait que entre guillemets, pour l'instant, la sélection devienne féminine, de plus en plus féminine d'année en année, parce que on avait avant beaucoup de mal à accéder à des postes de responsabilité en tant que femme chef. Et aujourd'hui, on nous propose des postes, on a des opportunités au même titre que les hommes. Donc voilà, on va dire que la bataille n'est pas gagnée, mais on est en bonne voie. Et je trouve quand même que aujourd'hui, on va dire l'univers des bistrots, est devenu de plus en plus féminin. À Marseille, on a une quantité de femmes chefs. C'est vraiment une fierté, donc je le dis à chaque fois. Mais c'est impressionnant le nombre de femmes qui, en plus, tiennent leur restaurant. Donc la ville est très, très bien représentée en termes de femmes. À Paris, je trouve que, enfin, il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui mènent des brigades et qui représentent quelque chose pour les futures femmes chefs. Donc on progresse et je pense que le monde des étoilés est plus lent, on va dire, dans cette progression, mais on va finir par y arriver.
Allez, soyons optimistes. Il est 12h16 sur France Culture. Les bonnes choses s'intéressent aujourd'hui au palmarès du guide Michelin rendu lundi 31 mars dernier dans un monde de la restauration, et on va y venir, qui semble à la peine.
Est-ce que quelqu'un se souvient, la semaine dernière, un couple, la commande, c'était bœuf Wagyu et Saint-Pierre Pocher. Allez. Jacques !
Oui, chef ?
T'as le listing de la semaine dernière ?
Oui, je vais
allez,
chercher.
Allez, montre-moi, allez ! Putain, ça fait 30 ans que je bosse, 30 ans que je cherche, que je me trompe, que je recommence, que j'invente. Tout est noté dans mes cahiers, là-bas, tout. Il y a deux règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. Parce que moi, j'ai appris tout seul. J'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait mes classes chez les grands chefs, les vrais, là, les classiques, les éduqués. Tu sais, quand je suis arrivé de Pologne, j'avais ton âge, je parlais pas un mot de français. Je cassais des carcasses à l'abattoir. Alors je suis parti à l'autre bout du monde, et j'ai commencé une nouvelle vie, la vraie, celle-là. Si on gagne dimanche, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi?
Un extrait de La Réparation de Régis Varnier avec Clovis Cornillac dans le rôle d'un chef cuisinier auréolé de 2 étoiles au guide Michelin et qui a donné sa vie, on l'entend, pour sa cuisine et qui attend de savoir avec une grande nervosité s'il va enfin obtenir sa 3e étoile, un film en salle le 16 avril. Une grande nervosité parce qu'en plus, en ce moment, les restaurants sont à la peine. Citons un article du journal Le Monde paru le 24 mars dernier dans lequel on pouvait lire que beaucoup de restaurants en ferme. Franck Pinet, Rabarousse, que se passe-t-il ?
Il se passe que la restauration subit d'un seul coup plusieurs phénomènes. Il y a d'abord un phénomène, comme nous le vivons chacun, une augmentation des coûts. Donc forcément que tout revient plus cher, tous les produits s'achètent plus cher, donc c'est difficile de les revendre plus cher aux clients. Donc il y a des effets qui sont assez importants en termes de réduction des marges. Il y a d'un côté aussi le personnel qui demande des augmentations de salaire. Ils savent qu'ils sont en position de force puisqu'aujourd'hui la plupart des restaurateurs sont en recherche de salariés. Et puis, il y a aussi une nouvelle façon de consommer le restaurant, et notamment le restaurant étoilé, puisqu'on est dans le thème aujourd'hui, où il y a une forme de défiance de la haute gastronomie avec des restaurants qui n'arrivent plus à faire venir une clientèle suffisante, avec une étoile, voire deux étoiles, voire trois étoiles. On a aujourd'hui à Paris, si on prend l'exemple de la capitale, des tables doublement étoilées, voire plus, qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se remplir, qui connaissent parfois des zéro couverts ou des deux couverts. Ce qui fait aujourd'hui que cette restauration-là est en crise, qu'on peut opposer, ce sera intéressant d'en parler avec la chef présente sur le plateau, mais avec des tables plus bistrotières. Et je crois que le Trou Gascon, par exemple, fonctionne extrêmement bien parce que ça correspond exactement aux attentes du client d'aujourd'hui, qui sont des tables conviviales, à des prix tout à fait corrects. Et on ressort avec le sourire et pas avec une addition trop salée. Une fois de plus, par opposition à la restauration étoilée, où on imagine parfois à tort qu'elle est très chère et qu'elle n'est pas forcément pour nous, entre guillemets, est une part de la clientèle qui estime que dès que la table est étoilée, elle ne devient plus pour nous parce qu'elle ne correspond plus à nos standards. Il faut s'habiller, il faut parler doucement, il faut respecter des codes. Ce qui, et là je tiens à le dire et à le répéter, n'est pas la réalité de la gastronomie étoilée aujourd'hui.
Sarah Chaunier-Strudel.
Oui, bah, je suis d'accord. J'avoue que je fréquente pas moi-même beaucoup de restaurants étoilés actuellement, mais j'ai entendu parler de cette crise, surtout à Paris, enfin de tables un peu mythiques aussi qui avaient du mal à remplir. Dans les attentes actuelles, je pense que l'étoilé reste un peu associé à l'exceptionnel, au côté hyper festif et plus une table du quotidien. Donc se réinventer et en fait surtout en tant que restauratrice moi-même, je comprends que c'est hyper dur quand on a 20 cuisiniers et cuisinières et 12 personnes en service, de proposer des menus le midi en dessous de 60 €. Il y en a qui y arrivent et je me demande vraiment comment ils arrivent à boucler leur fin de mois. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, on a aussi un peu tous moins d'argent à dépenser dans un repas et peut-être un peu moins de aussi de, enfin, vu qu'il y a un entre-deux, c'est-à-dire les bistrots qui travaillent bien. J'aime pas trop le terme de la bistronomie, donc j'essaye toujours de le contourner, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut
le dire. Il dit bien ce qu'il y a, hein.
Voilà, donc les bistrots qui proposent, enfin voilà, de bons produits et à des prix plus accessibles. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, en tant que cliente aussi, j'ai tendance à me tourner vers ces bistrots pour les repas du quotidien et garder les étoilés quand j'ai vraiment envie de découvrir de nouvelles choses et de me faire plaisir. Mais après, il faut parler du staff et je trouve pas que leurs prix ne sont pas justifiés, parce qu'il faut dire quand même qu'ils ont le double de cuisiniers ou de cuisinières que nous. Et il faut les payer bien, il faut payer leurs heures. Donc qu'ils aient un menu à 120 €, c'est normal. Enfin...
On va revenir sur les conditions économiques qui sont les vôtres, hors étoilées. Oui. Mais d'abord, Stéphane Méjanès, sur cette question.
Oui, le constat, il est clair. J'ajouterais un phénomène, une cause qui est le Covid, il faut quand même y revenir, qui a changé beaucoup, notamment la manière d'aller au restaurant. À Paris en particulier, il est difficile pour notamment les restaurants étoilés de remplir le midi. Il y a moins de repas d'affaires, il y a du télétravail, les gens vont moins manger le midi au restaurant. Il y a aussi peut-être la gestion pour certains de leur PGE, qu'ils ont un peu oublié.
PGE,
prêt garanti par l'État, qui a été une possibilité offerte, notamment aux restaurateurs, mais pas que, au moment du Covid, de contracter des prêts pour se renflouer. Et je pense que certains ont un peu oublié qu'il fallait rendre l'argent à un moment ou à un autre. Donc c'est évidemment pas la majorité, mais il y a ce phénomène-là. Je crois que l'article du Monde l'évoquait d'ailleurs. Donc oui, c'est devenu difficile pour toutes ces raisons, pour ces raisons économiques des clients, des restaurateurs, pour le personnel, pour le prix des matières premières, pour les marges. Moi j'ai fait des préouvertures récemment de chefs très talentueux qui ont été étoilés, qui ont du mal, qui sont attendus, connus, et qui ont un peu de mal à remplir, notamment le midi. C'est toujours mieux le soir, mais le midi, c'est compliqué.
Qu'en est-il, Sarah Chaunier-Strudel, du Trou Gascon ? Je précise, vous êtes revenue à Paris après être partie donc à Marseille ouvrir Regain, et vous n'êtes pas propriétaire des lieux, le Trou Gascon, ce qui vous permet peut-être d'être un peu plus libre aussi de toutes ces questions-là, et de vous concentrer sur votre cuisine. Mais vous remplissez midi, soir, Tout le monde va bien chez vous ?
Tout le monde va bien. On a eu de la chance, on a eu une belle ouverture. Aujourd'hui, nous, on est un peu une table du midi quand même. Enfin, on remplit plus le midi que le soir. Parce que je pense qu'il y avait aussi un réel manque dans le quartier.
Vous êtes dans le 12e arrondissement de Paris.
On est place de Ménil et c'est vrai qu'il y a pas mal de bureaux dans les parages, mais il manquait il n'y a pas de resto à proximité, on va dire, qui change la carte très souvent. Enfin, c'est plus des types brasseries, quoi. Nous, on a quand même une formule qui change toutes les semaines et on a des clients qui reviennent plusieurs fois par semaine et on est très heureux.
Oui, vous avez le sourire, donc ça a l'air d'aller bien. On est très contents de vous entendre, Sarah Chounier-Strudel, reprendre quand même. Ça ne doit pas être très simple de reprendre une institution, une maison de 50 ans tenue par un chef étoilé. Ça va, vous n'êtes pas trop impressionnée ?
J'étais très impressionnée au début. C'est surtout la cuisine qui est une cuisine c'est une grande cuisine, quoi.
Grande cuisine bourgeoise. C'était un repère d'une gastronomie gasconne et étoilée,
oui.
D'où son nom.
Oui, et puis même, on a beaucoup d'espace, ce qui est rare à Paris. On a vraiment un très bel outil de travail. On voit que c'est un cuisinier qui est derrière tout ça parce que ça a été pensé aussi pour un confort de travail et c'est super. J'ai beaucoup réfléchi à ce que faisait Monsieur de Tournier avant aussi pour être en cohérence, enfin pas casser l'histoire d'un seul coup et essayer de suivre une ligne tout en me l'appropriant et tout en faisant ça à ma manière.
Alors on peut donner quelques exemples, c'est-à-dire qu'il faisait une solide cuisine bourgeoise dite canaille, faite de foie gras, de champignons, de canards confits, de poules faisanes aux châtaignes à la truffe, de lièvre à la royale, on voit assez bien. Et vous, Sarah Chounier-Strudel, vous proposez une vision, disons contemporaine, de cette cuisine. C'est vous qui allez utiliser le bon adjectif, avec par exemple un vol au vent de sèche, asperges blanches, bisque au safran, piment d'Espelette, carré de cochon noir, crème de blette, sauce à l'anchois, queue de lotte meunière, haricots coco, sauce curry et noix de coco, canard en trois services, clin d'œil à la Gascogne revisité à la chinoise, et sans compter les desserts, parce que je crois que vous êtes aussi passionné de sucré que de salé, c'est assez rare pour être signifié, et vous proposez un soufflé au chocolat qui est à tomber, on va le dire comme ça, praliné olive et noisette, un Fontainebleau au Mélilo. Voilà quelques exemples. C'est ça, votre cuisine ?
Voilà.
Contemporain, vous diriez alors ? Qu'est-ce que vous utiliseriez comme adjectif ?
On a essayé de moderniser les classiques, donc je ne sais pas si le terme contemporain est
moderne, alors, moderne.
Mais oui, on a essayé, on tente en tout cas, et c'est chouette d'avoir ce fil rouge. Enfin, ce fil conducteur, c'est très très chouette de le maintenir au quotidien et de voir d'anciennes recettes et se dire « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?»
Et ça fonctionne. Le tout dans un élégant bistrot aujourd'hui.
Oui, la salle est super belle. Ils ont tout ouvert. Donc les deux patrons, donc Grégory Rebenberg et Jean-Félix Frichot, ils ont fait des travaux. Ils ont en modernisant aussi la salle et tout est ouvert. C'est très chouette.
Et Franck Pinera-Babrousse, qui n'a donc pas sa langue dans sa poche avec Bouillante, a écrit un article sur le trou gascon en disant, Franck, bistrotier et bourgeois, ce trou gascon régale. Vous nous en dites juste un mot ?
Effectivement, je me suis régalé, j'en garde un excellent souvenir. C'est exactement ce qu'on veut, c'est vivant, c'est bon, c'est généreux. Les verres de vin défilent sans même qu'on s'en rende compte et on passe un bon moment, on ressort avec le sourire. Donc c'est exactement les tables dont on a envie aujourd'hui, ces tables, on va dire sans chichi, mais qui travaillent extrêmement bien avec des bons produits. Donc faut filer au truc gascon, voilà.
Stéphane Méjanès, vous voyez s'il vous reste à faire ?
Oui, mais j'ai très faim. Je voudrais juste dire que Alain Dutournier aussi a quand même été un chef assez précurseur pour pas mal de sujets, notamment le comportement en cuisine et puis l'utilisation des produits de saison.
Sarah,
l'affiliation, je la trouve très belle, parce que Sarah, évidemment, dans cette génération-là et dans ce fil-là.
Au trou gascon, rigueur d'étoilé, prix de bistrot, menu déjeuner, entrée, plat, dessert à 29€. À la carte le soir, entrée à partir de 12€, plat à partir de 21€ et dessert à partir de 8€. C'est à Paris dans le 12e arrondissement. Un grand merci à tous les trois, Stéphane Méjanès, Sarah Chounier-Strudel et Franck Pinera-Barousse. Vous trouverez sur notre site franceculture.fr, à la page des bonnes choses, toutes les infos, les adresses, les références dont on a parlé. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Avec la petite équipe des bonnes choses, c'est un boutata à la réalisation Fanny Constant, à la prise de son aujourd'hui Guillaume Ficheux. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.